19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Et les prouesses de la médecine. Un bébé miracle vient de naître en France grâce à une greffe d'utérus. C'est une première dans notre pays.
La situation sanitaire est si fragile qu'un rien peut la faire changer. C'est la mise en garde aujourd'hui du porte-parole du gouvernement.
Les généralistes vont pouvoir vacciner leurs patients dès la semaine prochaine dans leur cabinet, mais on verra qu'il manque un peu d'enthousiasme.
Dans ce journal également, l'appel au secours enregistré par la princesse Latifa, la fille de l'émir de Dubaï. Elle affirme être retenue en otage. Didier François nous racontera les dessous de cette incroyable histoire.
À Marseille, entre les supporters de l'OM et la direction du club, ça y est, la rupture est bel et bien consommée. Et puis en tennis, Nadal renversé en 5-7 après avoir mené 2-0 face au grec Tsitsipas. Il est éliminé de l'Open d'Australie.
La météo avec Anissa Haddadi, du vent et de la pluie au programme. On va le faire dans l'ordre, c'est mieux.
Oui, le vent devient de plus en plus fort dans l'après-midi. Demain, il va souffler sur les trois quarts de la France et puis il sera accompagné de pluie sur la moitié du pays. Des pluies qui pourront déclencher certains orages dans le centre-ouest. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc une première en France et un espoir pour de nombreuses femmes. Un bébé vient de naître après une greffe d'utérus.
Oui, c'est une histoire assez extraordinaire puisque la maman née sans utérus et donc dans l'impossibilité d'avoir des enfants a reçu cette greffe de sa propre mère.
Et c'est le professeur Jean-Marc Ayoubi qui a fait cette greffe à l'hôpital Foch de Suresnes, près de Paris. Et c'est lui également qui était là pour l'accouchement.
Elle donne beaucoup d'espoir à beaucoup de patients. Vous imaginez bien que toutes ces patients, le seul message qu'elles entendaient, c'est que circuler, il n'y a rien à voir, aller adopter ou aller faire autre chose. On leur a toujours dit que c'était impossible. Or, aujourd'hui, c'est possible. Donc, c'est déjà un immense espoir. Mais cet immense espoir ne doit pas cacher le fait qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Les choses avancent. Demain, déjà, d'autres équipes ouvrent l'indication à des patientes qui ont eu une ablation d'utérus après une hémorragie post-accouchement. Donc ça donne un énorme espoir, mais moi je ne veux pas donner un faux espoir. Il faut rester modéré, il faut dire que c'est un immense accomplissement, mais il faut rester prudent.
Voilà, pardon pour la qualité sonore due, bien sûr, à la distance, hein, à cause du Covid toujours. C'était le professeur Jean-Marc Ayoubi, auteur de cette incroyable greffe d'utérus. Il répondait à Victor Dolande. La situation sanitaire, pas de nouvelles restrictions en vue, mais une mise en garde aujourd'hui du porte-parole du gouvernement.
Oui, même si les courbes sont en très légère baisse, ce n'est pas le moment de relâcher la pression, dit-il.
Au niveau national, le nombre de cas détectés par jour a légèrement diminué, en moyenne de près de 10% sur une semaine et le nombre de patients hospitalisés a très légèrement décru. Pour autant, il serait totalement déraisonnable de relâcher nos efforts et de crier victoire. La pression hospitalière reste forte, reste très forte, en particulier dans les services de réanimation. Nos soignants continuent à être sur le pont sans relâche et la situation reste si fragile qu'un rien peut la faire basculer.
Voilà, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, à l'issue donc du Conseil des ministres et d'un nouveau Conseil de défense sanitaire. Dès la semaine prochaine, les médecins généralistes auront à leur tour la possibilité de vacciner leurs patients à risque, âgés de 50 à 65 ans, avec le vaccin AstraZeneca.
Alors, on se souvient qu'ils avaient réclamé qu'on les implique davantage dans cette campagne de vaccination, mais maintenant qu'ils en ont la possibilité, beaucoup sont réticents. 1 sur 3 seulement à passer commande auprès de sa pharmacie pour réserver des doses. Jacques Battistoni est le président du syndicat des médecins généralistes de France. Il avance 2 arguments pour expliquer que ses confrères ne se bousculent pas.
Premièrement, parce que le vaccin est un peu moins efficace que le vaccin Pfizer. Et ils se disent finalement, est-ce que c'est pas mieux d'attendre d'avoir d'autres vaccins? C'est des questions qui peuvent se poser. Et puis aussi, vous avez entendu cela à plusieurs reprises, dans les hôpitaux notamment, les premiers vaccinés par le vaccin Astra ont souvent présenté des effets indésirables et c'est certainement de nature à freiner l'ardeur des médecins généralistes.
Voilà les explications du président du syndicat de médecins généralistes MG France, Jacques Battistoni. L'Allemagne annonce aujourd'hui que le variant britannique est en voie sur son territoire de devenir dominant. La Suède, connue pour son approche plus souple qu'ailleurs en Europe face au Covid, envisage de fermer salles de sport, restaurants, salons de coiffure car les chiffres repartent à la hausse. Et puis le Japon lance lui aujourd'hui sa campagne de vaccination avec beaucoup de retard sur les autres pays industrialisés.
Alors, on vous parlait à 18h de l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, en garde à vue depuis ce matin.
Oui, entendu dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics qui lui est reproché d'avoir favorisé certains de ses proches collaborateurs en les maintenant dans leurs fonctions alors qu'ils auraient théoriquement dû être à la retraite.
Verdict toujours attendu dans le procès de Georges Tron, accusé de viol et d'agression sexuelle contre d'anciennes collaboratrices de la mairie de Draveil dans l'Essonne.
Les choses dures, les jurés se sont retirés pour délibérer depuis maintenant 9h. On rappelle qu'en premier instant, Georges Tron, comme son adjointe, avait été acquitté après seulement 3h30 de délibéré, tous deux en cours, cette fois jusqu'à 20 ans de prison.
19h05, c'est une histoire à la fois rocambolesque et terrifiante. L'appel au secours lancé par la princesse Latifa, la fille de l'émir de Dubaï, retenue en otage par son père et qui craint pour sa vie.
Et on en parle avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
L'affaire qui tourne à l'incident diplomatique, hein, avec cette intervention du Premier ministre britannique qui exige des Émirats Arabes Unis la preuve que la jeune femme est en bonne santé.
Oui, mais alors c'est parce que le scandale, il a éclaté à Londres hier soir lorsque les chaînes de télévision BBC et Sky News ont diffusé en ouverture de leurs journaux cet appel vraiment poignant, hein, de la princesse Latifa. Une vidéo enregistrée dans les toilettes de sa résistance, où elle est retenue en otage depuis moins de 3 ans. C'est l'unique pièce de sa prison dorée, précise-t-elle, où elle puisse s'isoler, échapper quelques instants à la surveillance permanente de gardes chargée de sa détention. 5 hommes armés, des policiers qui patrouillent jour et nuit à l'extérieur, devant les fenêtres closes, aux volets condamnés. Quant à l'intérieur, 2 femmes ne la lâchent jamais d'une semaine, la privant de toute intimidée. Et son crime, eh bien, c'est d'avoir voulu échapper à l'emprise de son père, l'émir de Dubaï, donc qu'elle décrit comme un homme extrêmement violent. Il l'avait déjà séquestrée pendant 3 ans. Lorsqu'elle était adolescente, en 2002, elle avait juste 15 ans, elle avait été longuement torturée pour la punir d'avoir fugué. Eh bien, nouvelle tentative, en 2018, elle cherche à s'enfuir de l'émirat à bord d'un voilier. Malheureusement, elle est interceptée par la marine indienne, livrée au service secret de son père. Il la chloroforme, la ramène inconsciente dans le petit royaume où elle se réveille enfermée dans cette villa, transformée en oubliette. Alors, toute visite lui est pratiquement interdite. Il a fallu un courage incroyable à ses proches pour oser lui faire passer le téléphone portable qu'elle a utilisé pour tourner cet appel au secours.
Et ce n'est pas la première fois que l'émir de Dubaï est au cœur de ce type de scandale, d'ailleurs.
Eh bien non, effectivement, la justice britannique a établi qu'il avait déjà fait enlever la sœur de Latifa, la princesse Shamsa, qui elle aussi avait tenté de fuir son père pendant des vacances en Angleterre quand elle avait 18 ans. Même mode opératoire, hein, droguée, ramenée à Dubaï, enfermée. Et puis il y a ce procès en cours intenté par la princesse Aya. Alors elle, c'est la sœur du roi de Jordanie, mais c'est la 6e épouse de cet émir de Dubaï, qui elle s'est enfuie en 2019, elle s'est réfugiée à Londres avec ses 2 enfants, et bien elle veut aujourd'hui obtenir à la fois leur garde et le divorce.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Des dizaines de milliers de Birmans de nouveau dans les rues. Aujourd'hui, ils continuent donc de défier les militaires pour dénoncer le coup d'État.
Un nouvel enlèvement au Nigeria.
Oui, 42 personnes, dont 27 élèves, kidnappés dans l'attaque d'un pensionnat du centre-ouest du pays. Le président nigérian ordonne une opération de sauvetage. Et puis le prince Philippe, hospitalisé par précaution. Le duc d'Édimbourg, le mari de la reine Elisabeth II d'Angleterre, qui a 99 ans, a fait un malaise apparemment. Il va rester sous surveillance quelques jours. Rien à voir, nous dit-on, avec le Covid.
Le foot à présent. Et alors que Paris savoure son match d'hier soir en Ligue des Champions, Marseille s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise.
La direction de l'OM a décidé de couper les ponts avec les clubs de supporters qui assurent depuis des lustres la co-gestion de la billetterie dans les virages du Vélodrome. Tout cela alors que Marseille joue ce soir contre Nice en Ligue 1. Stéphane Frangy, vous êtes le correspondant d'Europe 1. Stéphane, le fossé entre les supporters et la direction du club, incarné par Jacques-Henri Hérault, n'a jamais paru immense. Est-ce qu'une réconciliation est encore possible ?
Non, on peut considérer que c'est terminé. Les supporters ne veulent plus entendre parler de lui. Ils vivent cette mise en demeure comme une déclaration de guerre, puisque pour eux, s'en prendre au groupe, c'est un petit peu comme s'en prendre à la famille.
On vit OM, c'est une ville qui vit football. Et jouer avec nous, c'est pas possible. Faut pas oublier qu'à Marseille, on peut se priver pour l'OM, quoi. Il y a des gens qui n'ont rien, mais qui se privent pour aller au stade et tout. Et là, c'est jouer avec notre amour propre.
Et la direction olympienne qui tente, en parallèle, de redéfinir une base saine avec le public, avec les passionnés comme Thierry, présents à la commanderie chaque jour d'entraînement pour saluer les joueurs. Il est persuadé que Jacques-Henri Hérault veut tout simplement faire le ménage et transformer les tribunes du Vélodrome en Disneyland.
Si il venait à faire disparaître les groupes, mais il n'y a plus personne dans le Vélodrome. Les gens, ils vont plus y aller. Je vois pas des gens arriver en virage, s'asseoir, manger des pop-corn et regarder les pom-pom girls sur la pelouse. Les tifos, bientôt, ça sera Mickey dans le stade Vélodrome. C'est pas possible.
Et les groupes de supporters qui appellent tous les amoureux de l'OM à se désabonner massivement des réseaux sociaux du club et à ne plus acheter le moindre produit officiel. Bref, la situation de l'état-major olympien semble intenable.
Bien, merci Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille. Ce coup de tonnerre maintenant, coup de tonnerre à l'Open d'Australie à Melbourne cet après-midi. Nadal a été éliminé.
Et oui, le numéro 2 mondial battu par le grec Tsitsipas dès les quarts de finale, après un match marathon, hein, Corinne Boulou.
Oui, et pourtant la partie était bien mal engagée pour Stefanos Tsitsipas, mené 2-7-0 par Rafael Nadal, au bord de vaciller. Il réussit l'exploit d'inverser la tendance pour s'imposer au terme d'un énorme bras de fer. Jusqu'à présent, en Grand Chelem, un seul joueur avait réussi à remonter un handicap de 2-7 contre l'Espagnol. C'était l'Italien Fognini à l'US Open 2015. C'est vous dire la portée de l'exploit du Grec. La clé de ce quart de finale, ce fut sans doute d'ailleurs la capacité de Tsitsipas à résister dans le troisième set et pousser l'Espagnol au tie-break. Le Grec prend alors l'ascendant et dans la dernière manche, Tsitsipas est sur son petit nuage. La troisième balle de match sera la bonne pour boucler ce marathon 7-5. Rafael Nadal, lui, était presque fataliste au moment d'expliquer l'inexplicable.
J'ai essayé de rester positif et combatif durant le match. Parfois c'est suffisant, aujourd'hui ce ne l'était pas. C'est juste un autre chapitre dans ma carrière, il faut l'accepter et continuer, c'est la vie.
Nadal a pu mesurer les progrès de Tsitsipas, qu'il avait privé de première finale en Grand Chelem en 2019. Le Grec, sixième mondial à 22 ans, aura une nouvelle chance vendredi.
Merci Corinne Boulou, Tsitsipas qui affrontera en demi-finale le Russe Medvedev. Allez, pour finir, ce tube qu'on adore et qui vient de dépasser
C'est une affaire de chef d'État en fait.
De quoi ?
Medvedev contre Tsitsipas, on dirait un président, premier ministre grec contre le président turc, enfin le président russe, pardon.
Ouais. Vous n'avez pas envie d'écouter de musique vous ce soir,
Julien ? Si, pardon,
bon,
je vous
écoute.
Parce
qu'on l'adore ce tube, il vient de dépasser le milliard d'écoutes sur Spotify. C'est une chanson feel good, on en a besoin d'un des plus grands groupes de tous les temps, en tout cas à mon humble avis, Queen. À vous de l'arrêter parce que moi j'en suis incapable. Don't
en fait,
stop me now.
En fait, vous n'êtes
fait
pas, vous n'êtes pas étranger aux milliards d'écoutes sur Spotify. Hein. Il y en a 200 millions, c'est vous en fait, Isabelle.
Absolument.
On vous a démasqué. Merci Isabelle, on vous retrouve demain évidemment à partir de 18h. C'était le journal d'Isabelle Millet.